De la recherche semble penser que les romancières du 19e siècle pratiquent surtout du roman sentimental, qui a surtout été imposé par Margaret Cohen dans son livre. Roman sentimental ou roman social sentimental, donc roman sentimental qui s'ouvrirait à une peinture de la société. Or, la production des romancières du 19e est beaucoup plus hétérogène. Alors je voulais revenir aujourd'hui sur une des formes littéraires qu'elles ont exploitées, qui est celle du roman historique, ou les différentes formes du sous-genre qu'est le roman historique. Alors comme j'en suis encore au début de mes recherches, ce serait une courte étude, hein, je vais juste proposer quelques pistes en fait à suivre et puis quelques réflexions. Il me semble en tout cas, c'est ce que je voudrais montrer aujourd'hui, que les romancières ont participé à la mode du roman historique donc à l'époque de Walter Scott. Walter Scott a été introduit en France. Elles ont écrit aussi des romans inspirés par l'histoire avant Walter Scott et puis après, donc il me semble qu'on peut constater une certaine affinité entre la forme du roman historique et l'écriture féminine au 19e. Alors on sait que Walter Scott introduit donc la mode du roman historique en France sous la Restauration au milieu des années 1820. L'expression roman historique se retrouve dans les recensions critiques dès les dernières années du 18e. Mais à la fin de la Révolution, et puis encore sous l'Empire, le genre a mauvaise presse. Donc là, je me réfère à un article de Brigitte Louichon, La critique des romans dans la décade et le mercure, qui est paru dans Romantisme en 2001. Ce sera la fascination des romantiques pour des époques idylliques révolues, en particulier le Moyen-Âge, bruissant d'exploits épiques et chatoyant d'amour courtois, qui dore le blason de cette forme littéraire. Elle bénéficie aussi de la conscience nouvelle du sens historique, hein, puisqu'on sait qu'avec la Révolution et l'Empire, l'histoire contraint les individus et les collectivités à se penser de manière historique, et elle renouvelle radicalement le roman, le théâtre et la poésie. Donc le roman se fait alors volontiers historique, d'apparence au moins, il demande à l'histoire un intérêt et une légitimité qu'il est aussi plus difficile, qu'il a plus de mal à trouver dans le récit des aventures privées et dans la peinture des mœurs quotidiennes. Alors Claude Duchet, pour donner une estimation, hein, qu'entre 1815 et 1832, entre un quart et un tiers de la production française de romans nouveaux ressortis au genre historique, ce qui représente entre 500 et 600 romans. Donc des auteurs comme Alfred de Vigny, Balzac, Mérimée, Hugo, Eugène de Mirecourt trempent leur encrier dans l'histoire. Les feuilletonistes se mêlent aussi de l'histoire, dans laquelle ils puisent des intrigues et des rebondissements, ainsi que les romanciers de cap et d'épée. Alors quelques noms, hein, Frédéric Soulier, Eugène Sue, Alexandre Dumas, Amédée Achard, Paul Féval, Ponson du Terrail, Michel Zévaco. Alors les noms que je donne rapidement ici sont ceux qui se retrouvent couramment dans les ouvrages théoriques consacrés au roman historique, qui laissent finalement peu ou pas de place au nom de femmes. Là, je pense, un exemple parmi d'autres, à l'ouvrage de Claudie Bernard, Le passé recomposé, le roman historique français du 19e siècle, hein, paru en 1996. Pourtant, les femmes sont bel et bien présentes dans les différentes formes du roman historique au 19e. On peut peut-être constater une certaine continuité de cette production sous la plume féminine. Alors, je vais m'arrêter sur deux moments, le début du siècle, donc la période qui précède la mode de Walter Scott en France, sur laquelle je vais passer rapidement, et puis l'après-Walter Scott, l'influence de Walter Scott, et puis aussi peut-être du roman plus d'aventure ou de cap et d'épée à la Dumas. Le début du siècle, donc. Alors, le foisonnement des questions qui agitent la France au début de la Révolution donne naissance à une littérature spécifique dans laquelle les écrivains ne sont pas en reste. Donc là, on vient de parler de cette production qui est encore assez inconnue. Les débats sur les droits des citoyens, sur les modes de gouvernement, sur les factions politiques, sur l'objet de la littérature et son pouvoir, le rôle de la femme écrivain, nourrissent l'œuvre de nombreuses romancières pendant la durée de la Révolution. Olympe de Gouges, Madame de Charrière, Madame de Genlis, Madame de Staël sont soucieuses de ne pas rester en marge du mouvement de l'histoire qui s'écrit sous leurs yeux, et donc elles écrivent des pamphlets, des romans confessions, des mémoires, des pastorales, dans un but politique aussi, et des romans historiques, qui prennent souvent la forme d'aventures sentimentales sur fond historique, et qui visent à représenter un passé monarchique pour l'évaluer. Mais le genre est aussi utilisé pour diffuser les valeurs morales dont sont soucieuses dans leurs écrits des écrivaines qui sont alors essentiellement issues de l'aristocratie ou de la haute ou moyenne bourgeoisie. On connaît ceux de Madame de Genlis, hein, les Chevaliers du Cygne ou la Cour de Charlemagne par exemple, les mémoires de la marquise de Bonchamp, Mademoiselle de Clermont, Madame de Maintenon, la Duchesse de la Vallière, etc. Dans le cas de Madame de Genlis, la pratique du roman de la nouvelle historique est sans doute liée à sa conviction que cette forme est la plus favorable au développement des conceptions morales. En fait, on peut trouver une véritable étude du cœur humain dans ces romans, où la vie de cour qui est brossée, hein, à travers le comportement des courtisans, montre les passions, les vertus et les vices des hommes. Le choix du roman historique est à mettre en lien donc avec les principes pédagogiques de l'auteur, une éducation chrétienne qui valorise la vertu, l'intérêt de la religion et de la morale. Mais on peut aussi constater que son histoire fait la part belle aux femmes, hein, comme l'indiquent les titres de ses livres, des femmes qui sont des héroïnes vertueuses, exemples de vertu, mais aussi les femmes qui ont eu un rôle de l'histoire, notamment comme maîtresse royale. Chez Isabelle de Charrière, on trouvera aussi un intérêt pour la réflexion morale et politique, par exemple dans un ouvrage comme Les lettres trouvées dans les portefeuilles d'émigrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque où le roman historique n'a pas encore acquis donc sa lettre de noblesse, le genre ou des formes du genre, qui sont donc volontiers employées par les écrivaines, semblent aussi volontiers laissées à elles. Alors dans un article de mars 1808 du Mercure de France, qui est consacré au compte-rendu de la réédition d'un livre de femme intitulé Le Duc de Lauzun. L'écrivaine en question que je ne connais pas, c'est pour ça que je passais son nom sous silence, c'est Madame Wim Fun de Sartori. Donc à propos de la réédition de cet ouvrage, Émile Augier se prononce contre le roman historique, hein, donc un genre selon lui essentiellement faux et pernicieux, et note l'apparition de vocations féminines dans un genre qu'il dit initié par Madame de Genlis. Donc là je cite, Madame de Genlis, sur les traces déjà un peu effacées de Mademoiselle de Lusson, s'est mise à composer des romans historiques. Les libraires ont assuré que c'était de fort bons ouvrages, et sur la foi d'un suffrage si décisif, plusieurs auteurs du même sexe se sont empressés d'en composer aussi. Alors ensuite vient Walter Scott, qui marque les romancières comme les romanciers français. Je cite quelques titres qui datent donc des années 1820-1830. Alors au hasard, de Madame Charles Rebaud, La protestante ou les Cévennes au commencement du XVIIIe siècle. Ça c'est le premier roman de l'écrivaine, qui paraît en 1827. Alors d'Hortense Allard, on a plusieurs nouvelles, comme Sirio, Lorenzo de Medici, Le Batelier, qui paraissent dans des revues comme Le Salmigondis, Heure du soir, le collectif Heure du soir, ou Le Livre rose. Autre titre, La vie de Cola d'Arienzo, ou encore L'Italie. Alors La vie de Cola d'Arienzo, par exemple, se présente comme la traduction d'une chronique contemporaine, écrite par un contemporain anonyme en dialecte napolitain, qui démythifie le personnage historique, et elle cite sa source dans le corps du texte, au début du texte, donc c'est vraiment présenté comme une étude historique. Il y aurait beaucoup d'ouvrages à citer de la duchesse d'Abrantès, par exemple dans les années 1830, au début des années 1830, La Mironde de Castille, de Sophie Uliac Trémadeur aussi des nouvelles, rassemblées dans un recueil intitulé Les Armoricaines. Puis George Sand aussi était influencé par cette mode romantique historique, dans Mopra ou Les Maîtres Mosaïstes, par exemple. En dehors de ces moments de mode historique, on a un recours plus constant au sous-genre et à des formes qui en approchent tout au long du siècle. Il y a même des écrivaines qui se spécialisent dans le sous-genre, comme Mélanie Waldor, Clémence Robert, la comtesse d'Ache, la duchesse d'Abrantès, Madame Charles Rebaud, que j'ai déjà citée, Elisabeth Guénard, ou encore Sophie Guin. Des écrivaines aussi qui exploitent exclusivement la forme historique. Alors plusieurs hypothèses que je voudrais risquer pour expliquer cet emploi du roman historique par les écrivaines du XIXe siècle. Le fait qu'il peut être considéré comme un genre noble, genre qui est privilégié par les aristocrates à côté des mémoires. C'est un genre qui se prête au didactisme et qui justifie donc, qui peut justifier une prise de plume. Un genre qui entretient un rapport fondateur avec les textes de femmes du XVIIe siècle, comme Madame de Montpensier, de Motteville, de Lafayette. Un genre qui permet d'exprimer aussi par détour des idées politiques ou féministes avant la lettre. Mais il y a aussi une raison de circonstance, puisque en fait beaucoup de femmes qui ont écrit des romans historiques ont fréquenté des hommes de lettres qui ont écrit des livres d'histoire ou des romans historiques. Alors il me semble en fait qu'il faut pour cette étude distinguer entre plusieurs types de productions historiques, et c'est ça qui a un peu compliqué mon enquête. Donc les productions historiques qui s'inscrivent dans le continuum entre l'ouvrage d'histoire proprement dit et la fiction de divertissement. Donc il y a les études et les portraits historiques, les romans historiques à la Madame de Lafayette ou à la Walter Scott, les romans feuilletons à la Eugène Sue, et puis les romans historiques qui sont destinés à la jeunesse, donc qui sont des ouvrages d'éducation. Alors je vais m'arrêter maintenant, ça qui m'intéresse, sur quelques portraits d'écrivaines historiques. Je vais commencer par présenter une galerie d'aristocrates qui ont écrit des mémoires ou des portraits romancés, et puis je vais dresser plutôt des portraits d'écrivaines qui ont été influencées, qui ont écrit des romans de divertissement à la manière de Scott ou de Dumas. Donc il y a plusieurs aristocrates qui écrivent des mémoires ou des portraits romancés à côté d'ouvrages didactiques à vocation morale pour la jeunesse et éventuellement de leurs propres mémoires. Donc ces ouvrages sont des sortes de témoignages sur le monde qu'elles connaissent, un monde disparu ou en voie de disparition, le grand monde, et ces livres leur permettent parfois de gagner de l'argent sans compromettre leur nom, mais aussi en tirant légitimité de celui-ci, donc de leur nom. Alors parmi les noms qu'on peut exhumer, Paul de Beaupoil de Saint-Aulaire, marquise d'Harcourt, Louise de Broglie, la comtesse d'Aussonville, la duchesse Laure Junot d'Abrantès, qui est plus connue, Élisabeth de Brossin de Méré, née Élisabeth Guénard, Adèle d'Osmond, la comtesse de Boigne. Donc ça sont les exemples que je vais proposer ici. Alors pour le premier cas que j'ai cité, donc Jeanne-Paul Beaupoil de Saint-Aulaire, la marquise d'Harcourt, on peut lui attribuer deux ouvrages historiques. Madame la Duchesse d'Orléans, qui a paru en 1858, et Une vie de Jeanne d'Arc. Alors elle a publié le premier ouvrage sous le nom de son mari, donc il a été annoncé comme écrit par la marquise Georges d'Harcourt, et le deuxième, La vie de Jeanne d'Arc, par l'auteur de Madame la Duchesse d'Orléans. Et le premier livre est une sorte d'hommage rendu à la Duchesse d'Orléans, qui vient alors de mourir, et qu'elle a connue par une présentation de la Duchesse dans le côté de sa vie intime à partir des lettres de celle-ci. Alors plusieurs raisons ont pu la pousser à prendre la plume. Il y a l'hommage rendu à une de ses amies, mais aussi le côté dramatique de la vie de la duchesse. Hein. Elle écrit au début, dans les premières pages de son livre, « Quoi de plus dramatique que la destinée de Madame la Duchesse d'Orléans ? Tant de malheurs, un caractère si noble aurait sans doute fait d'elle, en d'autres temps, une de ces poétiques figures auxquelles se prend l'imagination populaire. » Le côté aussi de l'édification morale, cherchons du moins dans de touchants souvenirs des exemples utiles à notre époque. Et enfin, le côté mise en évidence du rôle des femmes dans l'histoire, puisque la duchesse a traversé des épreuves que peu de femmes sont appelées à traverser et qu'elle unit le courage héroïque aux qualités les plus exquises d'une nature toute féminine. Alors, autre exemple, donc celui de la comtesse d'Haussonville. Donc, pour donner une idée des dates, elles écrivent toutes plus ou moins à la même période. Elle est née en 1818 et morte en 1882. Alors elle, c'était une femme du monde, la petite fille de Madame de Staël. Elle est née à Coppet. Elle a épousé le vicomte d'Haussonville, qui était historien et aussi membre de l'Académie française. Elle a un goût prononcé pour la littérature et la musique et laisse plusieurs ouvrages d'histoire, dont un ouvrage consacré au nationaliste irlandais Robert Emmet, mais aussi une biographie romancée sur Marguerite de Valois en 1870, et les souvenirs d'une demoiselle d'honneur de Madame la Duchesse de Bourgogne, qui sont en fait des faux mémoires écrits soi-disant à la mémoire de la Duchesse de Bourgogne par sa femme de chambre. C'est un livre qui n'est pas vraiment instructif sur le plan historique, qui n'apprend rien des choses publiques, ni un livre à suspense, ni un livre à théorie féministe, donc on peut seulement penser au jeu entre vrai et faux, et d'ailleurs l'ouvrage a été reçu comme étant authentique. Alors pour le cas de la Duchesse d'Abrantès, on pourra nommer une foule de titres, hein, dont la Mirande de Castille, Catherine II, la Duchesse de Valombray ou Edwige, reine de Pologne, mais aussi des romans étiquetés comme romans historiques, comme par exemple Étienne Saunier, qui se passe pendant le XVIe siècle de la Réforme, hein, puisque Saunier est un jeune docteur de l'Université de Paris. Alors je vais passer au dernier exemple pour ce type de production, qui est celui de la comtesse de Boigne, Adèle d'Osmond, qui a publié deux romans, La maréchale d'Aubemer, nouvelle du XVIIIe siècle, et Une passion dans le grand monde. Alors le premier était publié en 1866 et le deuxième en 1867. Et en parallèle de cette production fictionnelle, elle donne des mémoires qui seront publiées de façon posthume, donc au début du XXe siècle. Alors pour le cas du premier titre, donc La maréchale d'Aubemer, qui est intitulée nouvelle du XVIIIe siècle, mais qui est plutôt un roman, c'est en fait un roman d'intrigue amoureuse et sociale qui se déroule au XVIIIe siècle et qui est censé peindre les mœurs de cette époque. Alors les personnages principaux sont la maréchale d'Aubemer, une veuve sur le retour qui réside à Paris, et sa nièce Gudule, une provinciale venue d'Uzerche. L'action débute quand la maréchale d'Aubemer reçoit dans son hôtel parisien, où elle met la dernière main au préparatif d'un bal, une lettre de sa sœur qui lui annonce l'arrivée prochaine de sa nièce et de son mari dans la capitale. Elle lui demande de prendre la jeune mariée sous sa protection car c'est un cœur naïf et pur, hein, une jeune femme qui, dit-elle, n'a pas connu de chagrin et qui ne sait pas ce qui peut en arriver. Arrivé à Paris, le mari, Lionel de Saveuse, une bête qui a toujours voulu se déprovincialiser, s'entiche de la princesse Simon, une femme mariée, qui est pour amant l'homme le plus à la mode de Paris, Henri d'Estouteville. Il se met en tête de détrôner Henri auprès de la duchesse, y parvient. De son côté, Henri, devenu libre, s'attache progressivement à la femme de Lionel, près de laquelle il retrouve ses premières valeurs, héritées de sa mère, et que son père avait cherché à étouffer pour mieux le faire entrer dans ses vues d'épouser une riche héritière contrefaite. À la mort de Lionel, Henri et Gudule, qui ont été lents à se rapprocher, pensent pouvoir se marier, mais la princesse Simon, qui est jalouse, intrigue pour faire échouer ce mariage. Je vous passe les détails. Et puis finalement, la maréchale d'Aubemer apprend la vérité, dote sa nièce et persuade Henri de lui donner son fils en mariage. Alors, les intrigues d'intérêt et l'opposition entre Paris et province servent le propos. Donc la sœur de la maréchale d'Aubemer, Caroline, hein, lui confie sa fille en sachant, dit-elle, que le monde n'a pas perverti la maréchale. « Je connais trop le cœur de ma chère Émilie », lui écrit-elle, pour penser que le monde ait pu réussir à la gâter ou même à l'altérer. Et la maréchale s'esclave comme en défi pour le roman à venir. Le monde qui gâte le cœur, y a-t-il une idée plus provinciale ? Alors l'autre roman qu'elle écrit, donc Une passion dans le grand monde, se passe en 1813-1820 et a clairement pour but de peindre les mœurs de son époque. Donc elle écrit dans la première page du roman « Je n'ai pas eu l'ambition d'écrire un roman historique, mais seulement une histoire de salon. Il m'a fallu montrer l'influence exercée par la politique sur la société et jusque dans les familles. Je l'ai considérée comme peinture de mœurs pour le temps dont je parle, en cherchant à conserver aux différentes nuances du parti royaliste leur physionomie particulière telle que je les ai connues. Je n'ai point essayé de peindre les autres parties, dont les habitudes intérieures m'auraient été étrangères. » Donc ces ouvrages se veulent des tableaux d'une époque, soit vécue, soit plus ancienne, que l'on fait revivre sous les yeux des lecteurs. Ils font souvent la part belle à des personnages féminins. Et à côté de cette production, les auteurs écrivent souvent des mémoires. Alors à côté de ce type de production, qui se veut donc le tableau d'une époque, on a une production de fiction historique proprement dite, donc on pourrait vraiment qualifier de roman historique. Pour la présenter, j'ai choisi un cas particulier, qui est celui de Mélanie Waldor, puisqu'il me semble que les différents types de romans historiques qu'elle a écrits illustrent bien les influences ou les différentes formes de romans historiques qui ont été employées, exploitées par les femmes à cette époque. Alors Mélanie Waldor, elle rencontre Alexandre Dumas en 1827 et c'est quelques années plus tard qu'elle se met à écrire. Elle écrit des contes édifiants dans la tradition du XVIIIe siècle, ouvrages d'éducation, du théâtre et des poésies de circonstance. On lui attribue aussi une influence sur l'auteur des Trois Mousquetaires. Alors elle naît à Nantes en pleine période révolutionnaire. C'est important puisque c'est de cet épisode-là que ses livres vont être inspirés. C'est la fille de Mathieu Guillaume Thérèse Villeneuve et de Jean-Marianne Tasset. Son père est précepteur des fils du duc d'Aumont et fréquente le salon de Madame de Staël. C'est une famille lettrée. Lui, il a fait paraître une traduction des Métamorphoses d'Ovide et son frère a également fait carrière dans la littérature. Alors Mélanie Waldor a aussi une histoire d'amour compliquée puisqu'elle a épousé un mari qu'on a pu dire tyrannique et a eu ensuite deux amants, donc Alexandre Dumas et puis Cavour. Mais elle a été abandonnée par Alexandre Dumas alors qu'elle était enceinte, et puis son histoire avec Cavour n'a pas duré longtemps non plus. Elle écrira après sa séparation de corps avec son mari. Malheur à la femme qui place uniquement son bonheur dans l'amour. Mieux vaudrait pour elle qu'au moment de traverser un précipice, elle se confie à une planche pourrie, que de se confier au cœur d'un homme pour traverser la vie. La planche se brisera moins vite sous ses pieds que le cœur ne se refroidira sur son cœur. Alors, donc ça pour expliquer les différentes influences aussi qu'on peut retrouver dans son œuvre. Donc j'ai dit qu'elle avait écrit plusieurs types d'œuvres. Alors en ce qui concerne les romans historiques, on peut citer entre autres le premier roman qu'elle a écrit, L'écuyer d'Ombron ou L'oratoire de Bon Secours, qui a paru en 1832, La rue aux ours en 1837, L'abbaye des Fontenelles en 1839 et Les moulins en deuil, épisode de la guerre de Vendée. En 1852, qui est paru en feuilleton dans La Patrie. J'ai pu constater en fait une véritable évolution dans l'influence de ces romans, puisqu'on peut lire le premier roman comme étant inspiré de Walter Scott. C'est avant tout une histoire sentimentale, mais qui se passe au XVIIe siècle et qui met en scène un écuyer du roi Louis XIII. Tandis que le deuxième roman et le troisième roman surtout, L'abbaye des Fontenelles, sont davantage des romans à intrigue et tournent en fait au roman noir. Donc L'abbaye des Fontenelles est vraiment divisée en deux parties, une partie sentimentale et puis une partie noire. Et Les moulins en deuil, épisode de la guerre de Vendée, qui se passe en 1793 et qui raconte donc cet épisode de la guerre de Vendée, peut vraiment être considéré comme un roman historique et est conçu comme tel par l'auteur. Donc l'histoire de l'écuyer d'Aubron, c'est celle de l'abandon d'une jeune orpheline, Alide, par un écuyer qui l'a séduit par son apparence, qui la met enceinte et puis qui l'abandonne au moment où il part avec son régiment à l'étranger. Et puis ils se recroisent à Paris par hasard, alors que l'écuyer cherche à se réfugier pour échapper à la poursuite de ses ennemis. Il se réfugie dans la maison de... Il cherche refuge dans la maison d'Alide. Et puis il attendrit par le sort de son ancienne maîtresse et par la vue de son fils. Il va finalement la demander en mariage et donc ils vont se marier, mais l'histoire du couple sera malheureuse puisque l'écuyer ne change pas son caractère libertin. L'intrigue de l'abbaye des Fontenelles, donc je l'ai dit, est aussi sentimentale, mais tourne au roman noir dans la seconde moitié. Donc la partie sentimentale est vraiment mise au service d'une sorte de vision de l'institution du mariage. Puisque le roman prend le parti de Blanche, la jeune héroïne, qui elle aussi va subir un triste sort du point de vue de son avenir conjugal. On trouve beaucoup de déclarations polémiques contre le sort de la femme dans le mariage, qui sont évidemment adaptées à l'époque contemporaine, donc autant de Mélanie Waldor. J'en arrive finalement au dernier type de roman, écrit par Mélanie Waldor, donc Les moulins en deuil, qui a une veine très différente des deux précédents, puisque c'est l'histoire du vieux comte de Villefranche, qui a émigré en 1789, puis qui est rentré en France sous le Directoire. Il a relevé le château de ses pères, situé sur la route de Montfaucon à Beaupréau, et il voit s'apaiser les dernières agitations de la Vendée. Les affections politiques du comte appartiennent au passé, il regrette l'ancienne monarchie, condamne la Révolution, mais son fils, le jeune Édouard de Villefranche, sympathise avec la France nouvelle. Il est séduit par les victoires de Napoléon au-delà des Alpes et attiré par la gloire militaire. Alors pour retenir son fils au château, le comte imagine de le rendre amoureux. Il lui fait apercevoir les charmes d'une jeune orpheline, une paysanne, Louise, dont la pauvre cabane se situe près du château de la Millière. Après la brève histoire d'amour avec la paysanne, le fils du comte va partir rejoindre l'armée de Napoléon. Pendant ce temps-là, le roman nous raconte ce qui se passe en Vendée, et donc les conflits sont faits avec des personnages fictifs, mais censés représenter les conflits historiques. Alors le roman veut contribuer à l'histoire des guerres de Vendée, donc on y trouve une note de bas de page, où l'auteur écrit que le récit de l'attaque de Nantes est faite pour suppléer au manque des livres de Thiers, qui n'a pas pu indiquer dans son volume L'histoire du consulat tous les épisodes de la guerre de Vendée. Elle revendique l'exactitude de sa peinture, qui a été faite selon elle d'après des documents officiels. Il indique les quelques changements, les quelques anachronismes qu'elle a fait dans son roman. On trouve plusieurs déclarations de ce type dans le roman, donc vraiment pensé comme roman historique, mais aussi une certaine volonté d'introduire les femmes dans l'histoire, puisque les personnages féminins vont eux aussi se battre. Donc Mina s'engage par exemple avec Mademoiselle de la Roche-Jacqueline pour aller se battre pour le roi en Vendée. Et on nous dit que son rôle est aussi grand que celui d'une héroïne de l'Antiquité. Un dernier enjeu peut-être qu'on peut reconnaître au texte, donc au-delà de l'enjeu de tableau historique et de visée féministe, est celui de la question sociale, puisque les deux héroïnes du roman sont en fait empêchées dans leur désir amoureux. Elles veulent épouser des gens du peuple, mais leur famille aristocratique donc, les empêche de réaliser ces mariages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces romans, donc d'inspiration assez diverse, ont été lus comme des histoires d'amour, et donc de la même façon. Alors, le premier qu'elle a publié, dont j'ai parlé, donc L'écuyer d'Oberon ou L'oratoire de Bon Secours, a été lu de cette manière. Là, j'ai trouvé un article dans la revue bibliographique qui date de 1832. La revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts, qui présente des choix d'articles, extraits des meilleurs ouvrages et recueils périodiques publiés en Europe, où l'auteur écrit ceci: « Je félicite Madame Waldor, qui manie la lyre avec tant de charme et de succès, de n'avoir pas dédaigné de descendre à la prose pour nous montrer qu'il y a toujours quelque chose à apprendre sur l'histoire du cœur humain quand une femme veut bien nous peindre l'amour. Pour intéresser, elle n'a pas besoin de chercher le prestige d'événements compliqués, elle n'a qu'à ouvrir son cœur et laisser courir sa plume. » Alors ce type de remarque, donc, on le retrouve aussi à propos des deux autres romans qu'elle a écrits, notamment « La rue aux ours » et « Les moulins en deuil », puisqu'on dit à propos de cette œuvre que c'est avec son cœur que l'auteur a écrit une histoire du cœur, une de ces histoires du cœur, un de ces épisodes d'amour qui remplissent le cercle entier de l'existence des femmes. Alors juste pour citer d'autres noms qu'on pourrait aussi étudier dans cette perspective, donc Madame Charles Rebaud, dont j'ai parlé, et Julie de Kerangal, qui est l'épouse d'Augustin Thierry. Je vais passer sur cette partie-là, conclure directement en disant donc que les écrivaines ont participé à l'engouement de leur siècle pour le roman historique, à la Walter Scott, mais aussi pour le roman d'aventure ou de cap et d'épée, pour le roman noir à la Eugène Sue. Elles mettent volontiers en scène l'histoire particulière des femmes, soit par des portraits historiques, soit par des caractères fictionnels héroïques qui participent à l'action. Alors je pourrais citer aussi d'autres portraits de biographies romancées. Il y a énormément de biographies romancées qui ont été faites et qui servent à mettre en évidence l'existence, en fait le rôle des femmes dans l'histoire. Je pense au recueil Les armes henriquaines de Sophie Luac-Trémador, ou à Madame du Châtelet de Louise Collet, ou encore aux Marguerites de France de Gabrielle Soumet. Et voilà, je vais conclure par cette conclusion qui n'en est pas une, mais qui fera affaire, puisque je suis encore en cours dans mes recherches sur le roman historique.